Merci beaucoup, Dominique. Bonjour, messieurs, dames. Merci d'être aussi nombreux ce dimanche matin. Pour suivre donc cette première table ronde, le thème du banquet, le titre du banquet, l'intitulé lui-même, c'est « Une communauté discrète d'auteurs et de lecteurs autour de Claude Simon ». Donc, en l'occurrence là, m'entoure ce qui constitue une communauté discrète, je ne sais pas, mais en tout cas une communauté d'auteurs, et dont les gens respectifs rendent compte de la diversité même de cette communauté et quelque part de la richesse des gens que quelqu'un comme Claude Simon, à travers son écriture, est capable de rassembler. Mais pour former une communauté, cela implique des proximités. Donc je vais essayer de les définir rapidement. Yves Ravet, qui est à côté de moi, sa proximité à Claude Simon, on peut la voir comme étant double de proximité de romancier, parce que Yves Ravet est romancier, donc proximité de romancier à romancier, et également proximité géographique de maison, puisque l'éditeur d'Yves Ravet est les éditions de Minuit, l'éditeur de Claude Simon. Johan Ferber, qui est à côté de moi, qu'on a entendu hier, qui analyse de la littérature, spécialiste dans la littérature contemporaine et à l'intérieur de la littérature contemporaine du nouveau roman. Et donc sa proximité à Claude Simon, on peut la voir aussi dans ce rapport de Johan avec le nouveau roman dans son travail. Michel Napels, qui est à la gauche, à votre droite, donc, qui est ethnologue et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, directeur de recherche au CNRS. La proximité avec Claude Simon, elle peut se trouver dans le travail que Michel fait sur la guerre, Conjurer la guerre, un de ses derniers ouvrages que vous avez sur la table de librairie. La guerre, un thème qui entre évidemment en résonance dans les plus grands romans, en tout cas dans quelques-uns des romans les plus importants de Claude Simon, La route des Flandres, L'Acacia et Les Géorgiques. Patrick Boucheron, à l'autre extrémité de la table, proximité double, lui aussi, en tant qu'historien, enseigne l'histoire à l'Université de Paris 1, mais aussi en tant qu'écrivain. Puisque Patrick Boucheron, au-delà de sa discipline d'historien, se confronte lui aussi à la littérature. Je rappelle le récit qu'il a publié chez Verdier et qui met en scène deux figures, Léonard de Vinci et Machiavel. Voilà. Donc cette proximité de l'historien, peut-être en dira-t-il un mot tout à l'heure, ça fait référence à Histoire, le titre d'un des livres de Claude Simon, mais aussi, Claude Simon l'a dit hier, écrivain de l'archive, donc l'historien confronté à l'archive, et la manière dont aussi Claude Simon a travaillé l'archive. Donc le thème de la table ronde, que m'a fait Claude Simon? Pour la lancer, je voudrais revenir sur deux choses importantes qui ont été dites hier en introduction à ce banquet. Dominique Villard, dans sa communication inaugurale, je crois, a dit quelque chose d'extrêmement important d'entrée de jeu. Il n'y a pas d'école Claude Simon, a-t-il dit, ce qui signifie qu'il est vain d'aller chercher comment Claude Simon aurait pu essaimer, entre guillemets, d'une certaine manière, dans la littérature contemporaine. Par contre, Dominique Villard ajoute, en tant qu'écrivain, s'il n'a pas d'école Claude Simon, mais Claude Simon a ouvert des voies, ouvert des portes, et il a fait bouger des lignes à l'intérieur même du texte, et par extension dans la littérature. Je pense que nos invités en diront un mot. On peut aussi revenir sur ce que Johan Ferber a dit également, l'interrogation qu'il a placée au centre même de sa communication, à savoir qu'est-ce qui, chez Claude Simon, est contemporain, quelle influence souterraine Claude Simon a-t-il exercé? Et au fond, la question à laquelle il vous est demandé de répondre, c'est quelles sont les retombées du travail de Claude Simon dans votre propre travail, ou, pour le dire plus simplement, en quoi Claude Simon fait signe pour vous? Voilà. Alors peut-être je vais me tourner vers vous, Yves, qui êtes le romancier, celui qui avait la proximité la plus immédiate. Puis le tirage au sort unilatéral que j'ai effectué vous a désigné. Voilà. Donc vous tendre le micro. Voilà. Pour que vous lanciez.
Ah. Ouais, bonjour. Ce serait un orgueil incommensurable de répondre, hein, de ma part. Moi, je vais être très simple par rapport à ça. Bien entendu, il y a une parenté, mais moi, je sens autant de parenté avec d'autres, de ceux qu'on peut classer comme ça, dont on peut parler, qui sont des grands auteurs. Et quelles sont les références pour parler des grands auteurs, enfin ceux qu'on admire. Bon, parmi eux, il se trouve qu'il y a Claude Simon, mais il ne fait qu'être parmi ceux qu'on admire. Et loin de moi l'idée de chercher des connexions, des choses comme ça, quoi, réellement. Il n'y a que du point de vue peut-être humain, par rapport à la personne, où je sens, moi, un auteur engagé, bien entendu, il est engagé dans son siècle, ça a été démontré hier, mais en même temps, surtout, il est engagé dans son écriture, quoi, dans sa littérature. Et les grands auteurs, moi, je peux aussi bien prendre un livre de Claude Simon qu'un livre de Kafka. C'est des références, ou un livre de Steinbeck, pourquoi pas, voilà, je viens de citer lui. Et ce qui me paraît, moi, très important dans l'œuvre, je vais aussitôt m'exclure, quoi, de la situation, parce que c'est mieux, c'est ses capacités visuelles. C'est-à-dire que quand je le lis, j'ai vraiment le sentiment d'être devant des images, quelque chose, un film qui se déroule, et plus particulièrement encore devant des œuvres plastiques, des tableaux. Et je suis impressionné chez lui par cette capacité à interpréter le monde, enfin son existence propre, par des images qui sont quand même toujours référencées soit à un titre personnel par rapport à ce qu'il ressent lui, mais aussi par rapport à sa connaissance des œuvres d'art, c'est-à-dire qu'il peut aussi bien faire référence à une œuvre antique, ça lui arrive, qu'à une œuvre qui lui est contemporaine, et ou une œuvre du 17e, pourquoi pas. Et dans ce qui lui est contemporain, je trouve important de signaler le fait que quand Claude Simon, par exemple, hier, on l'a écouté, on l'a vu, et par exemple, il cite un peintre comme Mondrian. Et quand il cite un peintre comme Mondrian, faut pas oublier, c'est pas Mondrian qui est perçu aujourd'hui en 2000. Il serait presque dans une certaine mesure assimilé déjà, Mondrian, compris, on va dire. On sait historiquement à quel endroit il se situe, quelles sont quand même ses influences, etc. On n'a pas encore tout découvert, mais bref, c'est important. Sauf que Claude Simon, il en parle sur un film qui a été fait il y a déjà un certain temps. Mais aussi, lui, il a connu l'œuvre de Mondrian bien avant. Ça veut dire qu'en même temps qu'il découvrait, en même temps qu'il écrivait, il s'intéressait à d'autres catégories de la connaissance. Il n'est pas resté uniquement comme ça sur le fait littéraire afin de. Vraiment, moi, j'ai le sentiment de quelqu'un qui prend plein de risques dans l'écriture. Et le fait de prendre des risques, c'est le fait de se référer, donc je reprends sur Mondrian, par exemple, à des œuvres ou méconnues, ou relativement instables, ou mystérieuses, ou non encore interprétées, parce que le travail que fabrique Mondrian par rapport à l'art contemporain est réellement un travail qui pose des bases qui sont encore aujourd'hui instables dans leur interprétation. Et donc lui, il n'a aucune gêne d'aller dans un tableau figuratif du 19e, par exemple, et puis d'aller face à un tableau un tableau abstrait, dans la période abstraite de Mondrian. Et donc, en même temps, je me dis, bon sang, il a vécu en telle année, il a donc suivi l'évolution des courants artistiques, c'est vraiment très, très impressionnant, quoi. Je trouve que c'est un. Voilà, moi, quand je le lis, je trouve que c'est un auteur qui a beaucoup de courage, quoi. Voilà. Qui a aussi une épaisseur physique, quoi, dans ce qu'il a envie d'engager. Et jamais il est dans une posture littéraire. Il est toujours lui-même et c'est tout. Il se trouve qu'il fabrique de la littérature. C'est la différence. Voilà.
Après avoir tenté de fabriquer des tableaux, puisque cette proximité de Claude Simon avec la peinture vient aussi que, vous le savez, qu'il a tenté de lui-même de se lancer dans la peinture avant de prendre choisir le chemin de l'écriture. Et donc la peinture, effectivement, est quelque chose qu'il a toujours accompagné dans toute sa vie.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'y est pas trompé. Voilà. Il n'a pas fait une carrière de peintre. Il y en a qui l'auraient fait. Il aurait dit, en plus, je peins... Et ça c'est sa force, quoi. C'est-à-dire qu'il a transcrit toute cette problématique. Quand je dis Mondrian, on le connaît pas encore, ça veut dire que quand vous êtes devant des carrés comme ça, un système orthogonal avec deux trois couleurs primaires, que ce soit le mouvement issu du mouvement de style à La Haye aux Pays-Bas, que ça ait eu un rôle dans le Bauhaus, que ces peintres-là se retrouvaient parfois éventuellement constructeurs de gratte-ciel à New York ou à Chicago, avoir travaillé sur des structures matérielles comme le verre ou l'acier. etc. En même temps, et parallèlement à ça, il y a une grande spiritualité à l'intérieur de l'œuvre. Fallait le fouiller, ça. Fallait quand même aller le chercher. Encore aujourd'hui, si vous regardez, je reste que sur Mondrian pour pas non plus rendre les choses trop complexes, mais c'est faut quand même un certain regard, quoi.
Tout à fait.
Voilà, donc j'insiste.
D'accord.
Oui. C'est une table ronde.
Voilà, oui. Non, mais justement, je vais me tourner vers Johan, puisque hier, Johan, dans votre intervention, il y avait dans les trois points que vous avez tenté de dessiner, il y avait donc Claude Simon, écrivain du regard. Vous avez parlé vous-même hier, donc ça entre totalement en résonance avec ce que vient de dire Yves. Vous souhaitez rebondir un petit peu sur ce que vient d'être dit là par rapport à cette question du regard, justement, et en même temps vous enchaîner sur ce qu'a fait Claude Simon ou ce que fait Claude Simon en vous. Allez,
oui. Oui, effectivement, d'ailleurs, bonjour. Oui, effectivement, hier, en dernier point de mon intervention, j'ai pointé Claude Simon, écrivain des images. Voilà, écrivain des images et écrivain du regard. C'est-à-dire que, pour moi, j'ai l'impression, mais alors c'est une lecture toute impressive, et je pense que quand même, il faut se risquer un peu à cette lecture impressive du contemporain dans tout ce qu'il peut avoir d'incertain. C'est que ce qui impressionne durablement la littérature contemporaine, c'est à la fois la capacité de Claude Simon à se refuser à la vision traditionnelle et en proposer une autre. C'est-à-dire, il a une capacité d'évocation. C'est-à-dire qu'il fait problème autour de l'évocation, comment évoquer la guerre, mais que dans ce même temps, au moment où il y a ce nœud de problème, il propose justement une solution et finalement... il arrive à proposer une vision des choses. C'est ce qu'on disait hier, c'est-à-dire que son regard est tout d'abord entraîné vers une vision, et cette vision elle-même se double par une capacité oraculaire, une capacité visionnaire, où effectivement on a quelque chose de l'ordre de la voyance. C'est-à-dire, c'est comme si le langage devenait une sorte de tremplin pour essayer de dessiner un monde suprasensoriel où tout se répondrait. C'est comme s'il y avait finalement quelque chose d'assez proustien et peut-être même baudelairien où tout devrait se répondre. C'est ça. Et alors moi, ce qui me frappe beaucoup chez Claude Simon, c'est qu'il n'y a pas de signe. C'est-à-dire que depuis, pour le dire rapidement, Balzac, toute la littérature consiste en déchiffrement de signes. Et chez Claude Simon... tout ce qui fait signe devient énigme, mystère. C'est-à-dire que le signe n'est pas déchiffré. Et ce signe qui n'est pas déchiffré fait que tout ce qui est représentable devient une image qu'on essaye de sonder. Et cette image qu'on essaye de sonder, donc, produit effectivement des tableaux très très plastiques où effectivement on voit très très bien les chevaux embourbés, dévorés par la boue, par la rouille, dans Histoire, le vieux monde qui se remet à grincer avec ses essieux, on voit très très bien l'odeur du crêpe, des aïeuls. Donc voilà, effectivement, la capacité visuelle chez Simon, c'est quelque chose dans laquelle il semblait que la littérature ne croyait plus, et Claude Simon à la fois dit que ce n'est plus possible et le donne en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un geste de présence et d'absence qui fait que dans cet entre-deux, la littérature surgit finalement comme une épiphanie.
Et vous-même, Jeanne, dans votre propre travail, vous qui vivez, qui interrogez en permanence le roman contemporain, ce qui vous fait aller vers Claude Simon,
alors moi je vais dire très simplement, en fait Claude Simon m'a montré que je me suis trompé. C'est-à-dire que moi quand j'ai fait une thèse en fait sur le nouveau roman, mais une thèse de poétique et non pas une thèse d'histoire littéraire. C'est-à-dire que mon hypothèse de départ, c'était que cette image marketing du nouveau roman, cette image construite à la fois par Rob Grillet et par Lindon, n'était peut-être pas uniquement une image marketing, mais qu'il fallait peut-être proposer des concepts opératoires, poétiques, sur l'identité, la géographie, l'interrogation sur la fiction et l'écriture elle-même, pour essayer de voir si ce groupe pouvait être constitué non pas autour de données historiques, c'est-à-dire des écrivains qui se sont connus au même moment, mais s'il y avait vraiment des correspondances et vraiment des parentés et des questionnements qui trouvaient des réponses semblables. La réponse est non, mais en fait, je m'en suis aperçu parce que moi, quand je suis entré dans ma thèse, j'étais terriblement jeune et j'étais donc très Rob Grillettien. Je voyais, j'étais au milieu des années 90, extrêmement formaliste, extrêmement Rob Grillettien, j'avais 20 ans de retard. Et quand donc je suis parti bille en tête dans ma thèse, en voulant démontrer effectivement que l'identité était forcément des dédoublements, des triplements, des doubles, que la géographie était forcément instable, que la fiction pouvait être réinterrogée, formalisée, et que l'écriture ne parlerait plus que de l'écriture. Et puis dans ce parcours de recherche qui était un peu long, j'ai rencontré effectivement l'œuvre de Claude Simon. Moi, l'œuvre de Claude Simon, je ne connaissais effectivement que sa période formaliste, à savoir Triptyque, etc., et La Route des Flandres, que j'avais lu après. Je l'avais interprété non pas en fonction de ce qu'on a dit hier sur le vécu, le sensible, etc., mais je l'avais interprété à la lumière de ce que j'avais d'abord lu de lui. Et donc, en fait, je m'étais totalement fourvoyé dans la manière dont il fallait tirer un fil de Claude Simon. Et puis, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à dévider la pelote Simon, je me suis aperçu qu'il, notamment en lisant l'Acacia, je me suis aperçu en fait qu'il était un écrivain d'une sensibilité extrême, vraiment un écrivain qui ne posait pas des questions de formalisme, qui les avait totalement dépassées, là où l'Acacia c'est 1989 et Angélique ou l'enchantement de Rob Grillet c'est 1988, et je me disais il y avait une grande différence entre les deux, où Rob Grillet est toujours en train de disserter sur la forme, etc., et Claude Simon qui paraît avoir pris pied ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de grand décalage où Simon à un moment s'est détaché du reste et s'est installé dans une zone d'hypersensibilité et qui ne concerne pas par exemple Rob Grillet donc qui était mon écrivain, pour le dire rapidement, de départ. Voilà, et donc moi ce que ça m'a appris à voir Claude Simon, c'est que c'est effectivement ça m'a tout simplement appris à voir, c'est-à-dire que ça m'a permis de comprendre la littérature contemporaine. Et cette littérature contemporaine, je l'ai vue, en fait je la lis à l'aune de Claude Simon. Est-ce qu'elle peut pas uniquement à l'aune de Claude Simon, mais en tout cas, je me sers de Claude Simon pour voir quelle est la qualité du sensible. Et surtout, de ne pas faire, si vous voulez, Claude Simon permet quelque chose, il permet à la fois d'autoriser le récit, et en l'autorisant, en tentant de faire un récit, de s'interroger tout le temps en même temps sur la fabrication de ce récit. C'est-à-dire tenir deux fils en même temps. Et ces deux fils-là sont les fils qui tressent une part de notre modernité.
D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage, Michel, l'ethnologue. Hein, j'imagine que par rapport à votre propre champ de travail, qu'est-ce qui vous a conduit tout simplement à un moment donné vers Claude Simon? On disait hier soir que vous deux qui serez les derniers intervenants, qui êtes vraiment dans des champs extrêmement spécialisés de la recherche, l'histoire d'un côté, l'ethnologie de l'autre, mais que vous avez aussi une sensibilité littéraire et que vous ne le lisez pas seulement en tant qu'historien ou ethnologue, mais aussi dans le plaisir du texte tel que le texte de Claude Simon peut le procurer. Mais Michel, allez-y.
Oui. Merci. Merci pour cette introduction. On connaît la phrase, enfin, l'une des nombreuses phrases très célèbres de Claude Simon: « Je ne suis pas un spécialiste de Proust, seulement un de ses lecteurs passionnés. » Voilà, je ne suis pas du tout un spécialiste de Claude Simon. En revanche, en voyant le film hier soir, présentant, dans lequel Réa Simon présente le parcours et l'œuvre de son mari, j'ai eu une sorte d'évidence sur ce que je pourrais bien dire ce matin, ce qui était jusqu'à hier soir un problème. En fait, j'ai une expérience extrêmement banale de lecteur de Claude Simon, de simple lecteur de Claude Simon, dans un premier temps. Et c'est une histoire d'une rencontre amoureuse avec le texte. Voilà, comme quand elle raconte ce dîner où ils se sont rencontrés. Comme souvent dans les histoires d'amour, ça a commencé par une première rencontre qui n'était pas très réussie. Moi j'ai lu La route des Flandres en 85 parce que Claude Simon venait de recevoir le prix Nobel et qu'étudiant en Hippocagne, j'avais lu Rob Grillé et toutes sortes de gens comme ça, mais pas Claude Simon, donc je me suis dit qu'il fallait aller y voir et j'ai pas accroché. Voilà. J'ai longuement hésité à dire ça ici parce que tout le monde est censé beaucoup aimer tout Claude Simon depuis le début, mais en fait la vérité c'est celle-là, aussi simplement que ça, ce qui est une expérience commune. Et puis cette rencontre a cheminé un petit peu comme l'a dit Yves Ravet, au milieu d'autres lectures, d'autres œuvres littéraires, et à vrai dire c'est par un autre auteur, par un autre écrivain que je suis retombé sur Claude Simon, par Zébald, dont les thématiques croisent, l'écriture certainement pas, mais les thématiques croisent fréquemment celles de Simon, et j'ai été frappé, heureux de constater que l'exergue, l'une des deux exergues du dernier livre de Jean-Paul Gou est justement de Zébald. Mais bon, quelqu'un qui travaille aussi sur la difficulté ou l'impossibilité à ressaisir le passé et la nécessité pourtant à essayer de le sauver, le passé. C'est ça le grand avantage de la littérature par rapport à la vie qui lui est extérieure, c'est qu'on peut être amoureux simplement de plusieurs œuvres en même temps. Enfin, c'est possible dans la vie aussi, mais c'est plus compliqué. Voilà, donc Zébald mettait le jardin des plantes dans l'une des listes qu'il a faites à la demande de je ne sais plus qui de ses œuvres préférées. Et puis il cite dans Austerlitz un passage du jardin des plantes et ça a aiguisé ma curiosité et mon envie de recommencer 20 ans plus tard. Cette lecture. Et là, oui, ça a été une sorte de coup de foudre littéraire, de stupéfaction tardive pour la phrase, pour la composition. Donc pour des faits qui sont strictement et entièrement littéraires. Alors, je lis très très mal, mais je voulais juste rappeler ces phrases très très célèbre du début des Géorgiques, enfin pas l'incipit, pas le prologue, mais le début de la première partie. Il a 50 ans, il est général en chef de l'artillerie de l'armée d'Italie, il réside à Milan. Il porte une tunique au col et au plastron brodé de dorures, il a 60 ans. Il surveille les travaux d'achèvement de la terrasse de son château, il est frileusement enveloppé d'une vieille houppelande militaire, il voit des points noirs, le soir il sera mort, il a 30 ans, il est capitaine, il va à l'opéra, etc., etc. Et en fait, voilà, moi, je pourrais m'arrêter là. C'est-à-dire, je ne suis pas sorti de cette stupéfaction qui s'est déployée après sur d'autres registres. Alors, dès les Géorgiques, à la fois cette manière de construire le il, la manière dont ce il se déploie ensuite dans l'alternance et le croisement de l'italique et du romain des différentes voies des Géorgiques. Après, ça sera pour moi la découverte de cette structure, de cette composition, y compris sur le bloc de la page du Jardin des Plantes. Et puis enfin, la rencontre avec l'Acacia, qui pour moi aussi est le texte qui me touche le plus. Je ne sais pas très bien pourquoi. J'essaierai d'en dire un petit mot demain. Mais sur cette manière de faire de l'histoire, de parler de 1914, de 1919, de 1940, d'une manière qui qui n'est pas historienne, je crois qu'on peut dire ça. Voilà, alors après, ça fait déjà pas mal de choses que ça m'a fait, mais en même temps, c'est une expérience totalement banale et qui, jusqu'à présent, n'engage pas beaucoup mon métier et la justification du fait que je sois invité ici au titre de mon métier et pas comme simple lecteur, ce que je pense tous les gens qui sont dans cette salle partagent avec moi. Alors, du coup, c'est un peu comme essayer de comprendre ce qui nous touche en l'autre dans une rencontre amoureuse. C'est pas très facile. Voilà, alors je peux juste dire de manière énigmatique que c'est le fait que si ces phrases me touchent, la manière dont elles abordent les thématiques qu'elles abordent, ça a à voir avec mon propre désir de savoir qui est thématiquement focalisé sur la manière dont la violence fait quelque chose aux espaces sociaux et aux subjectivités à l'intérieur de ces espaces sociaux, comment par l'expérience de la violence les temporalités sont mises en vibration, cul par-dessus tête, excusez-moi, sont dessus-dessous, on dit. Voilà. Jusqu'à présent, j'en étais là à me dire qu'il y avait quelque chose à voir entre ce désir de savoir. Alors, pour tout dire, c'est pas très. On peut expliquer l'histoire des problématisations de nos propres désirs de savoir. C'est-à-dire, il y a des manières très disciplinées, très disciplinaires d'expliquer pourquoi je suis passé de l'anthropologie politique à l'anthropologie de la violence, etc. Bon. Mais à vrai dire, tout ça vient de sources qui m'échappent à moi-même, comme je pense elles échappent à la plupart des chercheurs, mais aussi des auteurs, de points focaux, de points d'origine qui sont aussi des points aveugles. J'imagine qu'il y a quelque chose qui résonne entre les points aveugles de mon propre travail et de mes propres intérêts avec ceux qui ont été de moins en moins aveugles de l'œuvre de Claude Simon. Mais voilà.
Merci beaucoup. En tout cas, preuve du fait qu'il est contemporain, puisqu'il continue à nourrir ce type d'interrogation. Patrick, vous souhaitez réagir sur ce que disait il y a un instant Michel, sur la façon dont Claude Simon aborde l'histoire, pas en tant qu'historien dans ses livres, ou tout simplement aussi, bien sûr, pour dire votre proximité avec Claude Simon.
En fait, nous avons quelque chose de commun, entre autres. Avec Michel, c'est que nous nous sommes un peu imposés ici. On ne nous a pas invités. Hein.
C'est bien, il faut.
Non, c'est vrai, on a un peu insisté. On a un peu insisté parce que, voilà, on est des engagés volontaires. Vous savez, il a fallu un peu convaincre Dominique. Les choses ne nous sont pas données. Il faut les... Bon. Pourquoi ? Ben parce que moi, je n'ai effectivement jamais, je crois, écrit une ligne sur Simon et je n'en ai jamais parlé publiquement.
Il faut un début à tout.
Voilà. Et donc, ça, c'est pour la communauté et c'est pour sa discrétion.
D'accord.
Une fois qu'on a dit ça, et donc, il a fallu un petit peu, convaincre Dominique. Non, mais si, en réalité, je n'en parle jamais, mais ça m'intéresse. Et ça m'intéresse et je ne peux pas en dire grand-chose. Alors, on en revient au discours de Stockholm, hein, c'est-à-dire je n'ai rien à en dire, je n'ai rien à dire au sens sartrien de l'expression. Ça veut dire je n'ai rien à dire, mais j'ai tout à faire, et tout à faire, y compris dans le langage. Hein, voilà. Donc moi je peux raconter comment, c'est à peu près la même histoire, elle est pareillement banale, comment c'était pas en 85, c'était en 87, au moment où j'avais décidé assurément de faire de l'histoire d'une certaine manière, c'est-à-dire sans se laisser intimider par la théorie, en étant convaincu que l'histoire à ce moment-là était une pratique qui était tout sauf cette assurance impérieuse dont on parlait hier, mais qu'il fallait y aller quand même. Et alors j'ai lu Les Géorgiques. Et alors effectivement, pour les raisons exactes que Michel vient de dire, en fait de lire, je n'en suis jamais revenu. Mais je n'y suis jamais revenu non plus, c'est-à-dire que j'ai jamais eu à l'expliquer. Bon. Et à partir du moment où Dominique avait cédé, j'avais comme idée pour demain d'essayer, alors là, simplement, voilà, de montrer comment, qu'est-ce qu'il en restait et comment, d'une certaine manière, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit hier sur, je dirais, sur l'archive, justement. C'est-à-dire que je pense que être historien, quand on a lu Claude Simon, c'est faire le contraire, c'est vraiment pas faire comme Claude Simon. Et c'est même le contraire de ce qu'on appelle le roman d'archive. Mais bon, ça, j'en parlerai demain. Donc, tout ça pour dire que, pour préparer quand même cette rencontre, d'abord, j'avais une ligne de conduite, et je disais, je vais tenir bon sur cette idée que j'ai pas, mon métier, ce n'est pas de parler de Claude Simon. Voilà. Et puis, il est toujours difficile de bâillonner complètement le bon élève qui sommeille en vous. Moi, j'y travaille, mais enfin bon, des fois, j'ai des fois, une sorte de retour du refoulé. Et j'avais décidé de ne pas relire les Géorgiques, que je n'ai jamais relu. Et puis, bon, finalement, je me suis dit, je vais le relire. Et je regrette. Enfin, je veux dire, non, plus exactement, non pas que ça m'ait déçu. Pas du tout. Au contraire. Mais j'ai mieux compris pourquoi, effectivement, dans ces années-là, j'avais pris la décision très nette de ne pas faire profession de parler des livres que j'aimais. C'est-à-dire de ne pas faire critique littéraire dans la vie. Jamais. Parce que je préférais qu'il reste tapis, enfoui et actif. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai à dire. J'ai ouvert le capot, donc j'ai vu davantage encore que je le pensais que c'était le moteur. C'en est presque gênant, y compris dans la phrase, Et je suis pas plus fier pour autant, quoi, voilà. Donc j'ai rien à en dire.
Oui, j'avais demandé de réagir à ces deux lectures.
Oui. Ben, effectivement, moi je crois, soit on se place par rapport à l'histoire, et puis par rapport. Parce qu'on ne détache jamais Claude Simon de l'histoire du nouveau roman, enfin, etc. Ouais. Et c'est vrai que celui qui aborde la lecture et puis qui commence très brutalement par. Une course à cheval dans une route des Flandres quelconque, il n'en a rien à faire du nouveau roman, si vous voulez. On sait que c'est une catégorie historique, c'est passé, et ça n'intéresse, en gros, ça n'intéresse personne, mais réellement. Et le principe, si vous voulez, moi je crois, c'est la relation du lecteur, pure et simple, avec le texte écrit par l'auteur. Et en quoi le texte écrit par l'auteur, c'est quelque chose dans quoi on peut baigner. Alors l'expérience particulière de Claude Simon, moi, enfin je ressens ceci dans ce qui vient aussi d'être dit, c'est le fait que on baigne après un grand exercice de lecture, de déchiffrage, de travail sur le rythme, sur le souffle, pour essayer au moins déjà de comprendre une première phrase. Et puis à partir de là, si à un moment donné, donc, au cours des lectures nombreuses et incessantes qu'on fait, on arrive à rattacher le sens d'un seul coup, à entrer dans une phrase et à la suivre jusqu'à son terme, ça devient une expérience inouïe. Mais cette expérience inouïe, c'est simplement l'expérience de la lecture, quoi. Et ça, c'est une expérience qui est absolument, effectivement nécessaire dans la construction de ce que nous sommes. Mais nécessaire par le fait que des gens comme Claude Simon nous interrogent sur ce thème-là. Puis moi, j'ai une question, aux historiens, au moins aux personnes. Je sais, une fois, j'avais lu dans Claude Simon, il fait part dans un de ses livres, ça doit être dans le Jardin des Plantes, il fait part d'un peintre, d'un plasticien qui s'appelle Gastone Novelli. Novelli, il en parle pas mal et tout, et donc il dit Claude Simon. Ils sont au bord d'une plage avec leurs femmes respectives, je crois d'ailleurs, et d'un seul coup, Gastone Novelli, dans le texte, il raconte, il dit, il raconte son passé.
La biographie, quand même. Et une c'est Claude Simon qui parle. Qui vient s'insérer dans le livre même. Hein.
Et donc Claude Simon, il parle de Gastonet Novelli qui lui dit j'ai été déporté, j'étais à Dachau, j'ai été torturé de telle manière, etc. Il y a du détail, Et après, Claude Simon dit. Gastonet Novelli n'en a plus jamais reparlé. Et puis, quand on cherche un petit peu, moi, Gastonet Novelli, c'est effectivement du travail abstrait. On peut soulever le capot peut-être là parce que c'est quand même c'est sans signification. Enfin, c'est des traces, des tracés sur une feuille, etc. Un peu comme le peintre américain Cy Twombly, par exemple. Si, c'est-à-dire que lui, il écrit comme moi j'efface en gros. C'est-à-dire qu'il travaille même à la gomme. Enfin, c'est complètement incompréhensible si on veut se situer au premier degré de la compréhension d'une œuvre d'art. Hein, voilà. Et donc. Par contre, alors Gastonet Novelli, il a poursuivi son œuvre de peintre, il est allé en Amérique du Sud, etc. Et puis il a développé son œuvre et il n'a plus jamais parlé de son expérience. Mais quand on suit les biographies de Gastonet Novelli, alors moi c'est vraiment une question pour moi ça. Eh bien, il n'est jamais indiqué que il a été déporté, par exemple, à Dachau pour fait de, par exemple, de résistance, des choses comme ça. Et ma question, ça a été à une personne qui était spécialiste, comme de Claude Simon, c'était comment se fait-il. Enfin, il y a Gastonet Novelli, et cette personne me répond aussitôt, eh bien oui, il a été déporté à Dachau. Et le problème que j'ai, moi, c'est de savoir si Claude Simon, à ce moment-là, il raconte une fiction, il invente. Ou si effectivement c'est vrai que par contre Gastonet Novelli n'a jamais été que les biographies de Gastonet Novelli indiquent que c'est une quelque chose de caché que jamais il n'aurait voulu le faire savoir. Voilà, c'est qu'une question, c'est-à-dire par rapport aux événements racontés quoi. Non. Voilà.
Oui, effectivement c'est une question. Ouais, je le. Si quelqu'un a la réponse dans la salle, je ne me l'étais jamais posé, j'avoue. Pour moi, il est. Oui, Dominique, j'imagine bien.
Non, vas-y.
Oui, bien sûr.
Mais vas-y, réponds-en. Non, mais celui qui a envie. Vas-y. Non, mais moi, je veux bien répondre.
Je ne veux pas du tout. M'immiscer dans votre table. Non, de fait, effectivement, Novelli a été déporté. Mais c'est effectivement un aspect de sa vie qui est constamment effacé, à tel point que, suivant les textes qu'on peut lire, on ne sait même pas dans quel camp il était. Si c'était Dachau, si c'était Mauthausen, enfin, il y a des ambivalences comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que en sortant des camps, il était complètement incapable d'entretenir une relation normale avec... normal entre guillemets, enfin, avec la communauté humaine. Et donc il est parti, effectivement, comme tu disais, en Amérique du Sud. Mais il n'est pas parti en Amérique du Sud n'importe où. Il est allé au fond de l'Amazonie. Et il a vécu avec des peuplades qui étaient complètement indemnes, finalement, de cette histoire de l'humanité calamiteuse que le XXe siècle a connue. Il s'est mis à découvrir leur langage, parce qu'ils ne parlaient rien d'autre que leur propre langue, qui était une langue vocale. Et donc voilà, ça lui a permis de faire cette transition qu'il a plus ou moins réadaptée à la vie humaine, comme s'il fallait retourner vers cette, on dirait ça de manière un peu hâtive, mais avec ces sociétés primitives, quoi, pour renouer avec l'humanité. Et quand il est revenu, effectivement, il s'est mis à faire ses peintures. Je crois que j'en ai quelques exemples d'ordinateur, éventuellement pour en montrer tout à l'heure. Et notamment ces grands tableaux où il y a ces graphismes sur lesquels insiste beaucoup Claude Simon, et qui sont à la fois qu'on peut interpréter, peut-être surinterpréter, c'est notre défaut, mais comme le A d'une douleur, d'une souffrance sous la torture, mais qui aussi cette langue vocalique primitive. Qu'il a connu avec les Indiens d'Amazonie. Et Novelli n'a absolument jamais voulu mettre en avant cette propre expérience. Il l'a, au contraire, complètement effacée dans son œuvre.
Ouais. Mmh. Et merci beaucoup, Dominique. C'est très juste. Il raconte, d'ailleurs, Claude Simon raconte ce passage de Novelli dans ses forêts amazoniennes. Patrick ?
Parce que toi, qu'est-ce qui te... Vas-y.
Non, mais moi, ce qui me travaille, c'est qu'il y a plusieurs interprétations, c'est ça, sur ce fait-là. Et c'est ça la question qui est de savoir à quel moment... Moi, je ne parle pas d'affabulation, ce n'est pas la question, mais étant donné que Claude Simon croise toujours une narration fictionnelle, mais en même temps, il le croise avec des événements historiques précis et réels, quoi. On sait très bien que la débâcle, enfin, etc. Et donc, moi, ça me pose toujours la question. J'aime bien, moi, savoir quelle est la référence et si on me dit quelque chose qui s'est vraiment passé ou pas, quoi. Voilà.
Alors, il se trouve, en tout cas sur les géorgiques, puisque je vais m'arrêter demain sur les géorgiques, que dès qu'on peut, quand on confronte effectivement le texte, ses avant-textes, les dossiers préparatoires, etc., on voit très bien que Claude Simon ne fabule jamais. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, en tout cas, du point de vue, que ça intéresse le lecteur, du point de vue de l'historien, ça pourrait être autrement, que ça serait pareil. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui fait la valeur historique de ce roman. Voilà. Ça, c'est quand même, c'est évidemment, c'est pas sa référentialité. Maintenant, ce qui est effectivement important dans votre échange, et on l'avait déjà vu hier, c'est que, bien sûr, que le journal le Jardin des Plantes aboutit à ce qui est là exprimé avec l'impérieuse assurance, pour le coup, de la littérature, à l'impossibilité de la transmission et à l'absolu du non figuratif, qui a toute sa dignité littéraire et philosophique, mais qui est évidemment, dans une perspective qui est celle de Michel et de moi, proprement irrattrapable. Voilà, c'est-à-dire que nous n'attendons pas de la littérature qu'elle conforte nos pratiques ordinaires. Nous évitons d'en faire un usage ornemental, des exergues comme ça, pour effectivement flatter nos... Voilà. Mais par ailleurs, il ne s'agit pas non plus qu'elle nous coupe l'herbe sous le pied, puisque cette herbe, c'est ni qu'elle nous coupe la parole. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que cette idée que l'expérience n'est pas transmissible est une idée contre laquelle, tranquillement, travaillent les sciences sociales. Et sans agressivité, mais avec obstination.
Ben oui. Oui. Oui, oui, c'est tout à fait, absolument. Et pour revenir, vous évoquiez la personne de Novelli, qui a évidemment une grande résonance, je vais me tourner vers vous, hein, parce que sans doute pourrez-vous nous éclairer là-dessus, une grande résonance par rapport à Claude Simon, à la fois dans la camaraderie, dans la fraternité entre ces deux hommes qui ont connu tous deux la prison. Parce que Claude Simon a lui-même été prisonnier, donc a lui-même connu le stalag d'où il s'est évadé, et où les conditions de détention ne devaient pas être beaucoup plus reluisantes que celles de Dachau ou de Dachau ou de oui, c'est pas pareil, non, mais enfin, en tout cas, il y a quand même une expérience de là. Oui, on va pas faire une, je suis d'accord avec vous, oui, on va pas mettre une gradation, mais oui, on va la faire, mais je veux dire, il y a une expérience commune de l'enfermement, de ce qu'est l'enfermement quelque part, hein. et puis ensuite il y a dans le Jardin des Plantes cette volonté de Claude Simon au moment donné, en se servant de l'écriture, des lettres qui forment des mots, de tenter quasiment d'aller vers la reproduction d'un tableau de Novelli. Et c'est ce que Dominique Villard disait à l'instant, cette fameuse page où il y a tous les A qui se succèdent, qui peuvent être à la fois référence au cri de douleur qu'a représenté la période que eux deux ont traversée de manière tragique, et également la proximité des regards qu'ils portent sur cette période. Novelli, en introduisant des lettres dans ses tableaux, parce que c'est exactement ça qu'il fait, hein, il compose certaines de ses tableaux, sont carrément des accumulations de petites lettres, une espèce de langage comme ça qu'il invente sur ses tableaux, et Claude Simon qui essaie de rendre compte de cette expérience-là pour voir comment ça peut faire avec les outils de la littérature dans le livre. Vous pouvez peut-être prolonger un peu, ou en tout cas donner votre sentiment à vous.
Oui, en fait, Pour moi, c'est ce moment où les archives sont présentes, ce moment où il essaye effectivement cette tentative de restitution, finalement, comme dans le vent. Cette fois, c'est pas un retable baroque qui serait figuratif, mais c'est du non figuratif. Moi, ça me fait plutôt penser à une idée. C'est peut-être pour ça que Claude Simon dialogue tant avec le contemporain. C'est que peut-être chez Claude Simon, il y a la matrice d'une sorte de littérature qu'on pourrait appeler une sorte de littérature indirecte libre, comme on parle du discours indirect libre. C'est-à-dire, il essaye finalement, comme le discours indirect libre chez Flaubert le faisait, de narrativiser tous les matériaux qui sont mis à sa disposition et toute l'hétérogénéité, en fait, de tous ces matériaux, que ce soit des lettres, des cartes postales, des registres, des tableaux, des témoignages des uns et des autres, l'interview avec le journaliste. Il y a comme une sorte de composition, finalement, il n'y a pas vraiment de lien entre chacun des éléments. C'est plutôt des rapprochements que le lecteur est invité à faire par toute forme fragmentaire. Voilà, une sorte de collage, effectivement, mais plus que ce collage plastique, il me semble qu'il y a une sorte de discours indirect libre qui passerait et qui donnerait finalement une idée, et c'est ça, moi, qui me plaît beaucoup, à titre personnel, chez Claude Simon, même en dehors de tout travail de recherche, mais qui, justement, stimule mon travail de recherche dans cette direction-là, c'est qu'on a l'impression, quand on lit Claude Simon, que la littérature est un sentiment. C'est ce que je disais hier. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que la littérature se fait sous nos yeux et que la littérature n'est pas... Alors, on a toujours eu du mal à définir la littérature pour les raisons qu'on connaît, mais plus qu'un principe théorique, il faudrait peut-être revenir finalement à une définition assez romantique de la littérature, selon laquelle c'est un sentiment à part. Il est différent de l'amour, il est différent de la haine, il est différent de la jalousie. Il existe quelque part dans une sorte de typologie des passions qu'on pourrait faire. C'est un sentiment. Et quel serait ce sentiment de littérature qui naîtrait à la lecture de Claude Simon? C'est que Claude Simon propose peut-être aux gens qui le lisent, quand bien même ils n'écrivent pas, moi j'écris pas par exemple, quand bien même ils n'écrivent pas, il donne une espèce de catharsis, d'identification. C'est-à-dire que, moi, je suis part du principe que si on lit un livre, à un moment, on s'identifie. Moi, ça m'intéresse pas de lire des livres avec des personnages auxquels je m'identifie pas. Moi, j'ai cette catharsis qui est à l'œuvre et j'ai envie qu'on me raconte une histoire. Alors, Claude Simon, même dans sa fragmentation, ses hachures syntaxiques nous racontent quelque chose. Il donne quoi? Il donne l'identification à une figure d'écrivain. Il y a quelque chose d'assez simple qui est finalement la lecture de Claude Simon propose quelque chose de l'ordre de l'identification à un écrivain. Et c'est en partie pour ça que je m'explique à moi-même, alors c'est pas du tout une théorie vérifiable, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un écrivain pour les écrivains. C'est-à-dire que c'est un écrivain qui va avoir du mal toujours à trouver son public parce que c'est un écrivain qui pose fermement et avec beaucoup de courage des questions d'écriture. Et dans une intransigeance qui fait que parfois il s'est heurté à l'illisibilité de sa propre posture, mais aussi qui a trouvé de sorte de grandes clairières, des éclaircies au milieu d'un nuage de problèmes qu'il s'est posé. Voilà, il y a une sorte de cap moral qu'il tient toujours très fermement sur les questions. Il ne renie jamais rien et il affronte directement des problèmes que, par exemple, le formalisme. Je prends toujours Rob Grier, le pauvre, comme exemple, comme victime expiatoire, mais que le formalisme peut détourner justement. Et Claude Simon, lui, s'affronte à quelque chose qui est précisément terrible pour un écrivain, c'est qu'il veut faire advenir finalement l'informe. Et cette informe, c'est ce qui, dans le texte, désire prendre corps et qui, peut-être, ne prend pas corps. Voilà. D'accord.
Michel, peut-être une réaction à cette...
Oui.
Tu vois prendre des notes, donc je me dis que quelque chose est en train de monter.
Non, il y a eu beaucoup de choses. J'aimerais revenir un petit peu sur la question du non figuratif et sur la manière dont Patrick l'a articulé. Comme il s'est présenté en guerrier et moi en amoureux, je vais pas le dire de la même façon, mais le paradoxe, c'est effectivement il y a une thématisation très développée et déployée De l'intransmissible, bon, moi demain je commenterai assez longuement l'entretien avec le journaliste qui a une partie très très connue, enfin, une série de séquences très très, très souvent commentées du Jardin des Plantes, mais thématiser l'intransmissible c'est une chose, et pourtant Claude Simon est bien un auteur qui attend d'avoir des lecteurs, qui écrit quelque chose comme un texte qui se donne à lire comme un livre. Enfin bon, donc on peut appeler ça du non figuratif, mais le poser comme ça, c'est évidemment dire que quelque chose se transmet dans le non figuratif. Alors, pour ce qui est des sciences sociales, oui, on est tenu par le figuratif. C'est-à-dire, ça s'appelle l'empirisme chez nous, un type de rapport au réel et d'administration de la preuve qui fait que il y a des choses qu'on doit montrer, des documents qu'on doit produire, commenter, en se disant qu'à travers eux, quelque chose se transmet, oui. Mais l'empirisme, et c'est peut-être là que Claude Simon se construit un artefact, l'empirisme, c'est pas nécessairement du naturalisme ou c'est pas nécessairement du positivisme, et c'est à ce point précis que pour moi il peut faire retour dans la construction de mon propre travail, c'est-à-dire qu'effectivement composer, coller, même si c'est d'une manière figurative, on n'est pas obligé de le faire d'une manière naturaliste.
Il est à l'œuvre on parlait des géorgiques il y a un instant, l'empirisme il est à l'œuvre dans les géorgiques d'une certaine manière, me semble-t-il. Parce qu'on va chercher carrément l'archive, les registres de LSM, du personnage du général d'Empire, sont donnés comme tels, même pas réécrits. Il y a une réécriture de l'hommage à la Catalogne d'Orwell, dans la partie liée à la guerre d'Espagne, à l'évocation de la guerre d'Espagne, mais il y a également le texte même du registre, ou les lettres à l'intendante quand il donne les ordres de... J'y vais. Où il donne les ordres à l'intendante sur les travaux à faire au domaine, tandis qu'il est absent, qu'il est en Italie, etc. Patrick, vous voulez réagir à ça, je suis sûr.
Je dois être expressif, mais en fait... Non, pas du tout. Oui, bien sûr. On verra.
On ne veut pas non plus empiéter sur ce que vous allez dire...
Il y a un texte de Proust qui est assez drôle, qui dit il y a eu un moment où les coiffeurs ont inventé l'expression le cheveu pour ennoblir leur propre pratique. Nous avons des cheveux, mais pour un coiffeur, dès lors qu'il se veut conseiller visagiste, comme on lit dans les villes, les villes moyennes, disons, il va s'intéresser à le cheveu. Eh bien, pour moi, dès qu'on dit l'archive, ça me fait le même effet.
D'accord.
Mais c'est valable aussi pour Arlette Farge. Hein. Pour un historien, il n'y a pas une archive que l'on transmet et qui dirait l'histoire. Ça, pour le coup, c'est du positivisme.
D'accord.
C'est-à-dire penser que l'histoire se relance et s'exprime librement dès lors qu'on touche l'archive, qui est le geste micheletien, et qui est ce geste précisément de l'archive qui passe de main en main et qui est thématisé dans les géorgiques, c'est une idée magnifique. C'est une source inépuisable de rêverie, c'est un sentiment littéraire, mais qui va à l'encontre de la pratique historienne ou de sciences sociales, pour qui il y a des archives qui se construisent, qui s'interrogent et qui n'existent pas avant qu'on ait, d'une certaine manière, posé leur regard sur elles. Ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que, et c'est ça que moi m'a fait Claude Simon. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a un effet d'entraînement prodigieux, et bien sûr que lorsqu'on lit cela, pour moi c'était les géorgiques, puis après c'était le point de répulsion, après j'ai lu tout le reste, on a très envie, juste d'y aller voir. Mais on sait déjà aussi confusément, parce qu'on est dans les années 80, Et parce qu'à ce moment-là, justement, disons, la pratique de l'histoire va s'éloigner de plus en plus justement d'une conception naïve de l'archive. Et ça, Claude Simon le savait. Enfin, je veux dire, l'histoire n'est pas la science auxiliaire de la littérature. Je veux dire, il ne lisait pas des historiens pour se documenter. Je pense qu'il a lu, enfin je sais par exemple, qu'il a lu Duby. Mais il l'a lu pas parce que ça l'intéressait de savoir qu'est-ce qui s'était passé le 27 juillet 1214 à Bouvines. C'était un dimanche. Ça commence comme ça, le dimanche est le jour du Seigneur, on lui doit tout entier. Bon, voilà. Non, ça l'intéressait de lire Duby parce que, justement, il y voyait une ressource d'intelligibilité sur la narration, sur le temps, sur ce que c'est qu'une bataille, pas pour les chevaliers du XIIIe siècle, mais ce que c'est qu'une bataille et ce que c'est que de la raconter. Donc, je veux dire, il y a effectivement, comme le disait Dominique hier, une conjoncture intellectuelle où les sciences humaines, dans les années 80, je dirais, font partie de la bibliothèque, mais pas nécessairement pour documenter les romans d'archives des écrivains, mais aussi pour, d'une certaine manière, dialoguer sur ce que c'est que l'attente, que, en l'occurrence, qu'une après-guerre, c'est-à-dire toutes les formes du temps.
Je voulais justement peut-être terminer, c'est bon Dominique, au niveau de l'horaire, sur cette question du temps, parce que j'ai remarqué dans chacune de vos interventions que dans la relation de lecteur à Claude Simon, le rôle que joue le temps, comme si Claude Simon était une rivière souterraine qui se dérobe au regard à sa naissance et qui réapparaît beaucoup plus loin et beaucoup plus tard. Voilà, Dominique Viard l'a très bien dit hier, d'ailleurs. Hein, voilà, vous également, parce que par rapport, allez, on ne sait pas encore, on peut pas encore mesurer complètement la trace. Que Claude Simon est en train de marquer la littérature contemporaine pour la raison que le recul du temps n'est pas encore suffisant pour peut-être mesurer tout ça, et on le voit à travers vos différentes expériences de lecteur, et j'imagine que c'est vrai pour tout lecteur de Claude Simon. On n'imagine pas, vous disiez il y a un instant vous avez lu puis au moment donné vous n'avez plus relu, vous n'avez pas relu les Géorgiques un petit peu comme si, et tout d'un coup c'est revenu comme une vague. Vous êtes d'accord avec ça, Yves, qu'il faut, du temps, c'est le temps qui est à l'œuvre là, après la lecture de Claude Simon?
La preuve, c'est qu'il faut déjà attendre qu'il soit mort pour qu'on en parle, de manière un peu... il faut vraiment de louables efforts déjà pour qu'on en parle. Ça, c'est bien clair, hein, tous les lecteurs n'ont pas dans leur poche comme ça les Géorgiques de Claude Simon à lire comme ça dans le train. Ils ont d'autres choses à... Et donc, ça c'est une première chose. La deuxième chose, moi je crois que ça interroge sa réception, hein. C'est-à-dire que de son vivant, et c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup chez lui, c'est que il se heurte au mur de la pensée résistante face à une phrase que lui essaie tant bien que mal de construire, il le dit lui-même, hein, qu'il essaie tant bien que mal de construire et qui recueille une sorte de mécompréhension. On ne s'est jamais non plus précipité malgré ce qu'on peut. On le voit effectivement quand on a un regard... On a un regard particulier quand on voit le film, on pense que Claude Simon était entouré, quoi, par exemple, toujours plein de monde, enfin, etc. Mais enfin, on court pas les librairies pour acheter ses livres le jour du prix Nobel. Certains sont étonnés. On dit même que, enfin, dans la bibliothèque de la Sorbonne, il n'y avait aucun de ses livres. Enfin, et donc il y a effectivement le problème de la. Bon, j'ai lu ça une fois. Hein, bon.
C'est ça.
C'est ce qui s'est dit.
Oui.
Ah,
oui,
je ne savais pas.
Oui, il y a eu quelques articles.
Ouais. Non, mais voilà.
Quelques articles demeurés célèbres. Le Nobel et la bête d'Angelo Rinaldi dans l'Express, notamment.
C'est moi qui
avait titré son article Le Nobel et la bête.
Oui, oui. Ben, voilà. Non, mais c'est. Mais je crois qu'il faut relativiser par rapport à ça. Et ça me semble important. Je pense qu'il en va de même. Mais après tout, il n'en est pas allé de même que pour ces auteurs-là. D'autres auteurs peut-être même des fois pas la chance d'être. Moi, ce que j'en retiens après ça, après avoir dit ça, moi, j'avais une autre question, mais c'est le fait que c'est quand je le lis aussi, moi, je vois la personne en train d'abord d'écrire, de dessiner et d'écrire, de penser, d'essayer de s'en sortir avec. Enfin, il a eu une vie complètement folle. Enfin, une guerre, la préparation de la guerre, enfin l'approche de la guerre d'Espagne, une guerre après, enfin toutes ces choses-là, c'est des choses, enfin que moi-même je n'ai, enfin jamais touché de loin ni de près au moindre uniforme ni à la moindre arme à feu. Ça, j'ai eu l'occasion de le dire un jour à l'université de Lille quand Dominique Viard enfin c'est quand même autre chose que Malraux, quoi. C'est pas la même, c'est pas la même histoire. Et par exemple dans le Jardin des Plantes, mais si Michel qui va arrêter, qui sourit. Si jamais tu l'abordes, il y a cet entretien fictif ou non avec un tiers, avec un interlocuteur fictif ou non. Enfin, moi, je me souviens avoir lu ça. Et puis, c'est pour ça ce que je veux dire là, c'est que Claude Simon aussi, il me fait l'impression d'une certaine nudité. C'est-à-dire qu'il arrive uniquement avec sa panoplie d'êtres humains, comme s'il était nu. Il a rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de s'embarrasser de connotations et de références pour dire qu'il fait de la littérature. Et donc, j'en tiens pour preuve. Ce que je vais dire, c'est que, par exemple, dans cet entretien fictif avec le journaliste dans le Jardin des Plantes, à un moment donné, il évoque Stendhal, et puis je crois que Claude Simon, je peux éventuellement me tromper à quelques millimètres, mais je crois que Claude Simon, il dit « Oui, ben c'est un peu comme Stendhal à Waterloo et tout. » Et puis le journaliste lui dit « Attendez, c'est pas Stendhal qui est à Waterloo, c'est Fabrice Del Bongo, c'est son être fictif qui est à Waterloo. » Et puis Claude Simon, il dit « Non, Stendhal. » C'est-à-dire que pour lui, quand tu racontes une histoire, tu l'as vécue. Et c'est ça, pour moi, la définition de sa nudité. Voilà, c'est ce que je veux dire.
Très bon, merci beaucoup. On va peut-être clôturer la table ronde de ce matin, au moins que l'un ait quelque chose à ajouter sur cette belle image. Merci beaucoup.